Le président Trump cherche désespérément qui a écrit et envoyé ce texte au New York Times, dans lequel on dit essentiellement « c'est un monde de fous, rassurez-vous, nous allons le contrôler et je m'occupe de ça ».
Ce serait quelqu'un de sa garde rapprochée.
Ça, on présume.
Qui travaille dans l'administration, donc, et qui dit des choses épeurantes, franchement épeurantes aussi, qui font écho à ce que le journaliste Bob Woodward a sorti dans un livre tout récemment. C'est-à-dire...
Va sortir, t'as dit, mais on a
ouais,
vu les extraits.
Oui, c'est ça, on a vu les extraits. C'est-à-dire que M. Trump est parfaitement déconnecté de la réalité. Ses adjoints, les gens qui travaillent avec lui, vont soutirer des papiers sur son bureau, par exemple, pour ne pas qu'il signe, je sais pas moi, la fin d'un traité. On essaie de le faire changer d'idée quand un matin il arrive et il dit « Bon, là, on va assassiner Bachar el-Assad, le président de la Syrie. Je dis pas qu'il mérite pas d'être assassiné ou de mourir d'une longue maladie cruelle, mais je veux dire, c'est pas ce à quoi on s'attend d'un grand pays important comme les États-Unis que de prendre des décisions sur un coup de tête comme ça. » Moi, ce qui est sorti récemment dans cette lettre-là et dans les extraits du livre de Bob Woodward, depuis que Trump est président, depuis avant même qu'il devienne président, c'est ce que j'ai entendu qui m'a fait le plus peur sur la condition mentale de cet homme-là.
Moi, je reviens un petit peu en arrière. Au moment de l'élection, ici même, puis un peu partout, tout le monde voyait bien quel type de président ça allait être. Et la question qu'on s'est posée à ce moment-là, c'est quels sont les contre-pouvoirs qui peuvent empêcher qu'un président... je sais pas comment le qualifier, mais en tout cas incontrôlable, instable, prennent des décisions extraordinairement dangereuses, pas juste pour les États-Unis, mais pour l'ensemble de la planète. Puis dans ces contre-pouvoirs-là, il y avait évidemment la Chambre des représentants, le Sénat.
Bien sûr, non, mais le Congrès pourrait être beaucoup plus intrusif.
Sauf qu'il est républicain, le
Congrès.
Sauf
que le Congrès
les
républicain...
Les deux chambres sont dominées.
Moi, je pense que les républicains savent que Trump est fou, mais Trump ne s'oppose pas à leur agenda législatif et réglementaire. Donc, les républicains vont le tolérer tant qu'il ne va pas s'opposer à leur agenda de déréglementation, etc. Mais dans un Congrès normal, on l'a vu dans Watergate, ben il y aurait une sorte d'aile du Parti républicain qui dirait « OK, maintenant, ça a assez duré et on va commencer à bouger. » Juste sur la question de la collusion avec la Russie, le Congrès fait pas son travail parce qu'il est dominé par les républicains.
Donc, le Congrès fait pas son travail. Il reste quoi comme contre-pouvoir? La justice?
Le 25e amendement.
Non, mais attends, il reste la justice puis il reste la presse. Les deux cibles principales de la majorité des tweets de Trump, c'est face à la justice américaine. On a vu son interventionnisme. Ouais. Là, il attaque Jeff Sessions d'une façon... Là, il attaque l'enquête de Mueller d'une façon monstrueuse. Et la presse, évidemment, la naissance de ce fameux terme des fake news qui est en train de réussir qui a réussi dans une certaine mesure. Une bonne partie de la population est convaincue que Trump a raison quand il dit que CNN, le New York Times, le Globe, tout ça, c'est des fake news. Non, mais attends...
Tout ce que je veux dire, Pierre, c'est qu'il y avait déjà une base. Il y avait une base d'Américains qui ne croient pas ce qu'il y a dans les médias traditionnels. Donc ça, là-dessus, il y a juste... En fait, il a rendu ce discours-là plus respectable, je pense.
Mais c'est vrai que les médias... Je vais donner, moi, l'exemple de CNN que j'écoute depuis toujours, là. Sincèrement, je trouve... Je ne dis pas qu'ils font des fake news, mais à l'époque, on blâmait Fox d'être une chaîne partisane. Sincèrement, oui. CNN est devenue une chaîne partisane.
Ah oui, les deux sont d'une
partisanerie totale. Complètement. Et CNN peut évacuer des sujets comme Fox va en évacuer parce que c'est pas fait pas l'affaire de l'agenda. Et ça, c'est depuis 2 ou 3 ans, là, et mais ça s'est accentué avec Trump.
Je finis juste en disant, j'en arrive, s'il n'y a plus aucun contre-pouvoir officiel, et c'est là le contenu de la lettre, le seul lieu pour contrôler les agissements qui pourraient être néfastes du président, c'est son entourage. D'où la naissance de cette lettre-là, puis tout ce qu'on apprend actuellement.
Oui, donc, il y a un côté épeurant à la lettre parce qu'on décrit comment ça se passe au quotidien. Puis moi, j'ai pas de raison de douter de la véracité de cette lettre-là. Je suis certain que le New York Times a fait son travail de vérification. Et si on a décidé de publier cette lettre-là, c'est qu'on sait qui l'a écrite, évidemment. Et on sait que la personne est assez proche de Trump pour que ce soit vrai. Ceci étant dit, le bout, disons, rassurant, c'est que la personne dit, écoutez, on le sait qu'il est instable. on le sait qu'il faut faire quelque chose. Et on a commencé à parler entre nous du 25e amendement. 25e amendement est assez récent dans l'histoire américaine. Je pense qu'il a été voté en 1967-68. Et ça pose la question de la succession. Mais aussi, à l'article 4, on pose la question de qu'est-ce qu'on fait si un président devient mentalement instable, n'est plus apte à gouverner. Et là, c'est là qu'on entre en territoire inconnu. Ça n'a jamais été utilisé, cet amendement-là. Et le cabinet, le conseil des ministres de Trump pourrait se réunir et décider que, écoutez, nous, là, avec le vice-président, on a décidé que, on le voit au quotidien, ce gars-là n'est plus apte à bouger. Et là où je me dis, écoute, plutôt que d'écrire une lettre au New York Times, mais pourquoi vous ne commencez pas les démarches pour invoquer le 25e amendement?
Mais en même temps, ça fait... Ça amplifie ce que tu appelles le monde parallèle puis les fake news. Ouais. Puis le fait que ça soit anonyme. Tu sais, je regardais ça hier en disant... Puis il y a même Brian Miles dans Le Devoir ce matin qui dit que ça devrait pas...
Il n'y a pas tort.
Que c'est pas un héros, le gars, là, parce qu'il crée une affaire de même. Puis dans le fond, ce qu'il nous dit, c'est qu'il collabore encore aux politiques de Trump plutôt que d'aider à accélérer sa chute.
Il joue dans le dos. Puis là, attends, la question, c'est de savoir, là, je suis d'accord que c'est quelqu'un de malade, hein, mais il a quand même été élu par quasiment la moitié de la population américaine.
Et sa cote de popularité est assez pour
payer. Il y a toujours une cote de popularité. Oui. Et là, tu as un groupe de personnes qui sont anonymes, qui se parlent entre elles, qui sont autour de lui, qui décident que lui est pas apte à... Imagines-tu là, le contexte? Moi, là, je serais là, j'aurais peur en maudit de ce groupe-là, parce que tu te dis, oula, oui. On est en train, nous autres, non-élus, des gens nommés,
c'est
qui trahissons notre patron, on est en train de dire que lui, hey, c'est compliqué, si c'est vrai.
Quand on lit ça, on voit qu'il y a un dilemme entre est-ce que tu préfères avoir le choléra ou le cancer? Parce que ce qu'on décrit, c'est un président instable, inapte, et ce qu'on décrit aussi, c'est une forme de coup d'État. Quand ses proches collaborateurs disent on soutire des documents pour pas qu'il y ait signe, on y fait changer d'idée, pour pas qu'ils prennent certaines décisions. C'est une forme de coup d'État, ça.
C'est un coup d'État des républicains, parce que ces gens-là sont des républicains. Enfin, quand tu lis la lettre, tu as le sentiment que c'est pas des démocrates qui en veulent.
Non,
non, c'est
sûr.
C'est des gens qui ont été nommés. Alors, c'est délicat.
Je soupçonne juste que les républicains n'ont pas vraiment d'objection de principe au coup d'État tant que c'est eux autres l'État.
Oui, probablement.
Merci, bon week-end. On vous retrouve lundi 8h57. Les ponts de la Rive-Sud.